en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Éric Desmazières, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes graveur et vous venez d'être élu à l'Académie des Beaux-Arts, très récemment, le 9 avril 2008. Vous avez une réputation d'excellence dans la gravure, vous êtes né en 1948 et vous dessinez depuis toujours. Alors, c'est Jean Delpech qui vous a formé au cours du soir de la ville de Paris, pendant que vous meniez de front vos études à Sciences Po. Et votre œuvre a été rapidement reconnue et internationalement reconnue, si bien que même... Dès les années 80, au bout de 10 ans de gravure, un marchand new-yorkais, Andrew Fichte, s'est lancé dans un catalogue raisonné de votre œuvre, de vos estampes. Alors aujourd'hui, il paraît que cette entreprise est toujours en cours et qu'on en est à la publication du 4e volume. Et vous avez à peu près, votre œuvre compte actuellement à peu près 200 planches. Et vous avez exposé un peu partout dans le monde, au Japon, en Europe, aux États-Unis. Et habituellement, quand on évoque votre œuvre, on parle du monde mystérieux Éric Desmazières, et si vous le voulez bien, vous allez nous dire un peu de votre virtuosité au service de l'imaginaire. Alors, Éric Desmazières, vous avez été encouragé à vos débuts dans la gravure par Philippe Molitz. Qui était-il ?
C'est-à-dire que j'étais toujours passionné par le dessin, dessinant beaucoup, mais ne sachant pas trop... Je ne me voyais pas artiste du point de vue professionnel. Alors ça me paraissait trop étranger, je sais pas, à ma famille. Enfin, et puis je voyais pas. Puis le dessin, ça n'est ni la peinture ni la sculpture, c'est un peu particulier, ni l'architecture. J'avais des velléités d'être architecte. Puis bon, pour des raisons.
Vous posé la question au cours de l'entretien.
Oui, il y avait eu. Enfin, c'est vrai. Puis ma famille connaissait des architectes quand j'étais enfant. Enfin, il y avait eu un intérêt pour l'architecture. Mais bon, il se trouve qu'à la fin des études secondaires, j'étais très indécis sur la voie à suivre, et par pesanteur familiale, je me suis retrouvé à Sciences Po en son temps, et que d'ailleurs ça ne m'avait pas déplu. J'ai beaucoup aimé les débuts notamment, qui étaient très généraux, il y avait beaucoup d'histoires, etc., j'aimais bien. Puis j'étais jeune étudiant à Paris, seul, c'était la liberté, mais le dessin continuait à travailler, disons, et je continuais à beaucoup dessiner, ce qui fait que au bout de 2 ou 3 ans, je suis conseillé par des amis, je suis allé m'inscrire à des cours du soir de la ville de Paris, qui existe toujours, où j'ai rencontré un professeur qui s'appelait Jean Delpech, qui était un buriniste, et qui était donc plutôt à la fin de sa carrière à ce moment-là, mais qui était très gentil, qui m'a accueilli, qui n'était pas du tout intimidant, disons, qui m'avait demandé de lui apporter un dossier, ça lui a assez plu, il m'a dit, bon, écoutez, on va faire des essais ensemble, surtout n'envisagez pas d'en faire votre métier, c'est tout à fait fini, plus personne ne fait de gravure, etc. Lui-même avait fait pas mal de timbres, il avait, je crois, eu le prix de Rome juste avant la guerre. Et il m'a vraiment beaucoup encouragé avec intelligence et gentillesse, qui fait que je me suis décomplexé vis-à-vis de ce médium que je ne connaissais pas du tout enfant. La gravure, c'était une chose, je ne voyais pas du tout ce que ça voulait dire. Enfin, j'aimais le dessin, j'aimais la peinture, j'avais un peu vu des expositions, des musées, mais la gravure, le tout premier contact que j'ai pu avoir, je pense que c'est... D'une part, une exposition Rembrandt qui a eu lieu à Amsterdam en 69, que j'étais allé voir de Paris, étant étudiant. Nous étions allés avec des amis voir cette exposition qui était pour le 3e centenaire de sa mort, qui était une très grande exposition au Rijksmuseum, dans laquelle la gravure était très à l'honneur, notamment une salle, si je me souviens bien, une salle circulaire dans laquelle étaient présentés les états de ses plus belles planches, notamment les Trois Croix, la pièce de Saint Florin et les Trois Croix sont une gravure dont Rembrandt fait beaucoup d'états, etc. Et donc, il y avait, enfin maintenant tout ça remonte à longtemps, mais il y avait sans doute des explications sur la technique, il devait y avoir des vitrines avec des outils. Alors, j'ai un tout petit peu compris ce jour-là de quoi y retourner. Enfin, c'était noir et blanc, ça, on peut pas comparer, mais les dessins que je faisais étaient aussi noir et blanc à la plume. Petite familiarité, disons, dans le rendu, qui m'avait énormément séduit, et je me souviens, j'étais rentré de cette exposition très très impressionné. C'était donc la deuxième année de Sciences Po, et je me suis inscrit au cours du soir, un an après cette exposition, en 70, cette exposition était en 69, et j'avais aussi, par hasard, dans une librairie qui s'appelait Vincent Fréal, qui était rue du Bac, trouvé un petit livre tout à fait modeste de taille sur Piranèse, et qui aussi m'avait complètement bouleversé, alors que c'était des toutes petites reproductions qui ne rendaient pas justice des originaux. Mais c'était un monde comme ça, aussi imaginaire, grandiose, qui m'avait beaucoup plu. Alors les deux choses ont provoqué ce goût pour la gravure, et il se trouve qu'en plus, avant même d'aller à ces cours du soir, j'avais vu dans la vitrine d'une galerie qui s'appelait Bernier, qui était rue Jacques Callot, une gravure de Philippe Molitz, qui était un peu inspirée, c'était une espèce d'intérieur de cathédrale, comme ça, un peu détruite, et c'était un burin noir et blanc. Et étant étudiant, n'ayant pas beaucoup d'argent, j'avais néanmoins acheté cette gravure. Tous mes amis avaient dit que j'étais complètement fou, et j'avais été très impressionné. Et la coïncidence a voulu, enfin, c'était pas tout à fait une coïncidence, mais disons, je me suis inscrit à ses cours du soir, et Molitz les fréquentait. Non pas comme élève, puisqu'il était déjà un artiste professionnel, mais il venait y utiliser les presses, qui étaient donc à la disposition des élèves, car il habitait à proximité, mais il n'avait pas de presse chez lui. Alors, j'ai fait sa connaissance, j'ai osé lui parler, nous avons sympathisé, et je dois dire que il a été comme un grand frère. Je me souviens que les premières morsures de gravure que j'ai pu faire chez moi, non pas à l'atelier, il est venu m'aider parce que c'était des grandes planches, c'était un peu délicat. Et aussi, il m'a rendu un très grand service en me présentant à des marchands, notamment un marchand américain qui s'appelle Andrew Fitch, que j'ai connu donc au tout début de mon travail, de ma vie de graveur. Et il m'a également présenté un libraire qui, à l'époque, avait des libraires qui s'appelaient Fontaine, qui existe toujours, et qui avait à l'époque un département en gravure. Et donc, plutôt que d'aller tout timide avec son carton, de voir des galeries, ce qui était absolument impensable pour moi, des gens sont venus chez moi, et donc il y a eu comme ça un début de vie professionnelle en vendant des gravures.
Dès le départ, pratiquement ?
Oui, assez vite. Là, j'ai eu de la chance, grâce beaucoup à ce... Bon, il faut dire que j'avais beaucoup, beaucoup dessiné avant de me mettre à la gravure, et donc... Quand j'ai commencé la gravure, j'avais une espèce de fond de dessin qui m'a permis de tout de suite réaliser des planches plutôt grandes, d'ailleurs, par rapport à ce qui se faisait.
Vous avez toujours opté pour ces grands formats, alors ?
Enfin, oui. Ah, enfin,
c'est passé vite,
bien,
ça ne vous a jamais fait peur, quoi.
Non, pour moi, ce n'était pas tellement un problème, alors que la gravure est souvent de taille modeste, disons. Mais j'aime bien les gravures de grand format. Je trouve que la gravure gagne souvent à être de grand format.
Est-ce que les thèmes de vos dessins de jeune homme et d'enfant, c'était tourné autour de quoi ?
Oui, c'était vraiment une continuation des dessins d'enfant, c'est-à-dire des grandes architectures imaginaires, inspirées peut-être, je ne saurais pas vous dire, mais c'était... Bon, j'avais passé une enfance au Maroc où, comme vous le savez, il y a une architecture très particulière, notamment dans le sud, ces casbahs, ces espèces de villes comme ça qui se développent, qui est magnifique. Et puis aussi, j'aimais beaucoup l'Italie où j'avais eu l'occasion d'aller dès que j'avais 19-20 ans. Et là aussi, ça a nourri, disons, j'étais très impressionné par l'Italie, par l'architecture de l'Italie. Et aussi par les artistes qui ont représenté cette architecture, qui ont été aussi parmi mes premiers amours, comme enfin, les Vénitiens, Canaletto, Guardi, enfin Piranesi était Vénitien d'ailleurs, même s'il a plutôt travaillé à Rome. Donc il y a eu un peu cette mixture. Il y avait aussi ce côté qu'on trouve dans les dessins d'enfants, de batailles, de scènes de combat dans des rochers, etc. Enfin, tout ça était très imaginaire. Mais ce n'était pas nouveau. Ce qui était nouveau, c'était la gravure. Mais le sujet n'était pas nouveau. C'était... disons une mise au propre, on peut dire, même des dessins que je faisais plus jeune.
Dans vos gravures, quand on les regarde comme ça, on a l'impression un petit peu d'un temps suspendu, un temps arrêté. On a l'impression tout d'un coup de voir à la fois un instantané photographique, puis en même temps il y a quelque chose de moderne qui vous appartient, qui est vraiment commun à toutes vos gravures quand on les contemple, quand on est devant. Qu'est-ce qui fait la modernité de vos gravures ?
Écoutez, je ne sais pas si elles sont modernes. Ce que je peux redire à propos des sujets quand même, c'est que bon, il y avait aussi quand même une velléité d'être architecte qui ne s'est pas concrétisée, et qu'il y a cette nostalgie dans les gravures, disons. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rêve architectural qui puise plutôt dans le passé, disons, mais pas forcément, parce que ça se développe, disons, le dessin se nourrit de lui-même. Par conséquent, c'est plutôt une chose qui est indépendante du temps extérieur. C'est en ça qu'on peut dire que c'est peut-être intemporel, mais c'est pas une volonté, c'est pas une hostilité à l'époque, disons. Mais c'est une chose qui se fait à part, qui est plutôt, oui, justement, du domaine du rêve, enfin. C'était le cas à l'époque, parce qu'ensuite, c'est un peu changé, disons, enfin, pour ce qui est de l'inspiration.
Alors, on reviendra peut-être un peu après sur cette inspiration. Comment vous travaillez ? Comment vous passez justement du dessin à la gravure ?
Alors, quand j'ai commencé à faire des gravures, donc, j'ai plutôt copié des dessins que j'avais faits. qui étaient des dessins aboutis, disons format raisin, pour schématiser. Et j'ai pris des plaques de cuivre de format raisin, et puis l'eau forte, finalement, si elle est très simple, ressemble un peu au dessin. C'est un trait noir sur un papier blanc, par conséquent... C'était un peu de l'interprétation des dessins, comme d'ailleurs faisaient les graveurs d'interprétation du 17, 16, 17, 18e, c'est-à-dire qu'on leur donnait un dessin qu'ils devaient recopier. J'étais mon propre graveur d'interprétation, on va dire, par rapport à mon œuvre originale. Et puis petit à petit, quand même, j'ai vu l'intérêt qu'il y avait dans la gravure, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose de différent du dessin, en ce sens que c'est en trois dimensions, puisque c'est creusé dans le cuivre et en relief sur le papier, avec toutes les possibilités qu'il y a dans l'action de creuser, c'est-à-dire l'utilisation de l'acide plus ou moins forte, les temps de morsure, tout le jeu qu'il y a au moment de l'ancrage de la planche, où on peut laisser du fond, enfin tout ce qui fait la spécificité de la gravure. Donc petit à petit, c'est devenu autonome, disons. Mon travail de graveur est devenu autonome par rapport à mon travail de dessinateur. Et d'ailleurs, le changement était aussi que, alors que je faisais des dessins plutôt rapides, je faisais plusieurs dessins par jour, ce qui est un peu bête de parler quantitativement comme ça, mais ensuite c'est devenu très lent, je suis devenu très lent dans la gravure, parce que justement le médium est tellement permis une telle précision qu'on finit par se noyer dedans, et puis il y a ce côté, donc contrairement au dessin, on ne voit pas le résultat, on travaille sur une plaque vernie, c'est pas du tout un trait noir sur un fond blanc, c'est un trait de pointe sèche sur un cuivre verni. Donc on fait des états, c'est-à-dire qu'on tire des épreuves en cours de travail, et on peut répéter cette opération plusieurs fois, ce qui fait qu'il y a une espèce de lenteur qui s'installe, et de beaucoup plus grande richesse, il faut dire, au niveau du rendu. Alors petit à petit, je suis passé de ces dessins assez, comme ça, assez jetés, à des gravures, alors... très élaborée, très lente, où il y a 1, 2, 3, 4, 5, et parfois 10 états. Et donc il y a comme ça un changement de rythme qui s'est opéré, mais sur beaucoup d'années.
Alors vous prenez de plus en plus votre temps aujourd'hui ?
Oui, alors ça devient même trop parfois, parce que... Bon, alors en plus, au bout de peut-être un peu plus de 10 ans, j'ai découvert quelque chose qui fait partie de l'estampe, qui est l'aquatinte.
Oui, c'est une de vos spécialités.
L'aquatinte est une technique un peu compliquée à mettre en place, mais qui permet d'avoir des aplats. C'est la technique de la fin du 18e, mais qui a été très utilisée par des gens comme Goya, par exemple, qui permet d'avoir des aplats gris, ou comme Picasso. Et ces aplats gris peuvent être grattés, atténués, avec des instruments qu'on appelle des brunissoirs, des ébarbois. Non seulement c'est lent, parce que la technique est lente à mettre en œuvre.
Il y a toutes ces étapes, ces essais.
Mais en plus, on peut reculer. Donc on peut effacer ce qu'on a fait, le nuancer, refaire une aquatinte, etc. Alors, il y a un tout petit danger d'avancer, de reculer, d'avancer, de reculer. Les états se succèdent. Et donc, les gravures peuvent, effectivement, alors qu'au début, ça devait durer une semaine, ça durait un mois, puis deux mois, puis six mois, et puis si le format est grand, plus encore.
Vous revenez
donc il y a une espèce d'évolution vers la lenteur. Oui, oui, oui.
Continuelle.
Mais il faut dire que c'est une très belle technique qui justement permet beaucoup de nuances et est très riche de possibilités.
Ce que vous appelez la mise en lumière, ça c'est pour aussi
oui, ça
pour
permet. Ça équivaut, disons l'équivalent dans le dessin, c'est le lavis. Le lavis ressemble à l'aquatinte, seulement on ne peut pas tellement reculer dans le lavis. Une fois que c'est fait.
On ne peut pas
gratter une feuille de papier comme on peut gratter un cuivre. C'est en ça que la gravure est un médium intelligent, c'est qu'on travaille sur un support bien plus malléable que le papier. Et ensuite, on le reporte sur le papier, disons. Il y a une espèce de dédoublement comme ça qui permet une grande richesse.
Canal Académie.
Un lieu qui a beaucoup compté pour vous, qui est l'atelier de René Tazé. Pourquoi est-ce qu'il a beaucoup compté, ce lieu, pour vous ? Cet atelier en particulier, cet atelier de gravure.
À ce sujet, parlons de René Tazé. À l'époque où j'ai rencontré Molitte, 71, je commençais à faire de la gravure. 71, j'ai dû en faire une ou deux, trois. 72, 73, j'ai commencé à en faire davantage. À partir de 73, j'ai décidé d'en faire mon métier. Bon, j'étais un peu aidé par ma famille, j'étais logé un petit moment, donc ça a facilité les choses. Mais j'ai donc réalisé des gravures et réalisé des éditions, c'est-à-dire des tirages relativement importants, 50, 60, mais que je n'ai pas réalisé moi-même, je n'avais pas de presse. Donc je suis allé chez un imprimeur qui s'appelle Leblanc, qui est rue Saint-Jacques, qui existe toujours, qui est dirigé par maintenant quelqu'un qui s'appelle Pierre Lallier. Et à l'époque, René Tazé était taille-doucier, c'est-à-dire imprimeur de gravures en taille-douce à cet endroit. Donc nous sommes connus, nous avons sympathisé, et puis plusieurs années après, il a quitté, il s'est installé à son compte, et je lui étais fidèle, et il s'est installé en 78, et depuis 78, j'imprime très majoritairement chez lui. C'est un excellent imprimeur, qui est devenu d'ailleurs une personnalité dans ce monde, qui est maître d'art, enfin qui est très reconnu, qui a une clientèle très importante, alors que ce monde connaît des difficultés, lui... tire plutôt son épingle du jeu, malgré le fait qu'il a dû récemment changer d'atelier. Et il se trouve que j'ai passé beaucoup de temps dans cet atelier, que donc il y avait des temps morts, etc., et qu'on est là à avoir envie de s'occuper, que petit à petit, j'ai eu envie de dessiner ce lieu qui était un endroit tout à fait quelconque, mais assez beau, dans le sens qu'il était très compartimenté, avec une verrière, des effets de lumière, des machines. Les presses sont des très belles machines. Et donc, j'ai été amené à réaliser des vues de cet atelier au fil des ans. Ça ne s'est pas fait du tout. Enfin, il y a eu une gravure. La première a été en 79, la deuxième en 80, la troisième en 81.
Et vous y reviendrez peut-être.
Ben non,
enfin, il a été détruit, mais je veux dire.
L'endroit est un peu différent maintenant. C'est peut-être plus rationnel, mais peut-être moins mystérieux. Et ça a coïncidé aussi au fait que, alors qu'au début, tout ce que je réalisais était très imaginaire. On disait à l'époque un peu fantastique. Je suis un peu parfois réticent, mais je préfère imaginaire.
C'était les années 70.
Oui, voilà. Et donc, il y avait d'autres artistes enfin, qui étaient aussi dans cette veine. Mais progressivement, quand même, disons comme une espèce d'alternance entre le rêve et l'état d'éveil, je me suis mis à regarder la réalité et à réaliser des dessins ou des aquarelles d'après la réalité, puis des gravures. Donc l'inspiration a un peu...
Ça vous a ancré dans le réel.
Il y a eu un glissement vers le réel, disons. Plutôt des endroits d'ailleurs familiers. Je partais pas dessiner sur le motif. C'était plutôt des endroits...
Intérieurs.
Chez moi, ou des endroits où j'allais souvent. Des appartements d'amis ou l'atelier Tazé, justement. Il y a eu un peu comme ça, ça a coïncidé aussi un changement dans l'inspiration qui a fait que je suis passé à l'acte, une chose entraînant l'autre. À partir de ce moment-là, j'ai davantage réalisé des choses d'après la réalité. Pas forcément d'ailleurs, il y a parfois eu des longs décalages entre le dessin que je réalisais et la gravure, ce qui fait que c'est une reconstruction a posteriori, c'est pas de l'impressionnisme, on va dire, c'est très reconstruit. Mais l'inspiration est la réalité. Alors, et puis en général, c'est plutôt presque photographique, enfin, c'est très très
c'est très
précis,
minutieux, voilà. Très précis, très,
oui,
très figuratif,
etc. De rendre
etc.
ce qui existe, tout ce qui existait.
Voilà. Il y a ce souci, et c'est pour ça qu'on parlait d'arrêt sur image un petit peu tout à l'heure, mais qu'est-ce qui, justement, même dans cet atelier Tazé que vous avez gravé plusieurs fois, dans un des films qui vous est consacré dans le Paris d'Éric, il y en a qu'un, il y en aura d'autres, on vous voit justement dans cet atelier avec lui, avec René Tazé, et on voit votre travail en même temps. Là, il y a un va-et-vient entre l'amitié qui vous lie avec lui et puis...
C'est vraiment un collaborateur important pour un
voilà, graveur, pour vous, et c'est assez...
essentiel, même, oui.
Donc, un moment, on vous voit travaillant sur une gravure de cet atelier, et puis vous pensez le mettre dans la gravure, puis finalement, vous ne le mettez pas. Alors, c'est un joli moment dans le film, mais en même temps, la plupart de vos gravures, il y a très peu de personnages.
Alors oui, c'est effectivement...
Y compris sur des sujets, disons, plus ancrés dans la réalité, il y a peu de personnages dans vos gravures.
Écoutez, j'ai pas d'explication parce qu'il m'arrive de dessiner des personnages, mais alors plutôt en dessin ou par ailleurs, donc c'est pas un parti pris. Dans le cas précis dont vous parlez, l'atelier, enfin c'était effectivement un film qui a été réalisé au moment où René d'ailleurs devait quitter son atelier, donc j'ai pensé que c'était intéressant de le montrer à l'occasion de ce film. Donc j'ai réalisé une gravure de l'endroit.
Et on voit justement tout ce travail de va-et-vient,
oui,
où vous revenez
et
sur
René
la...
René était très présent, etc. Donc c'était plutôt la volonté des réalisateurs de faire en sorte que René figure dans la gravure, mais comme il avait figuré dans aucune, sauf une, il y a eu une gravure qui a été réalisée, mais qui était une carte de vœux pour lui, alors c'était normal qu'il y figure. Mais il y a aussi dans l'image, justement comme ce sont des images, Ça va vous étonner, mais pour moi, c'est un peu abstrait aussi. C'est des horizontales, des verticales, des blancs, des noirs.
Mais vous trouviez que ça n'avait pas sa place.
Et la présence humaine introduit comme une perturbation là-dedans. C'est des formes rondes qui ne cadrent pas tout à fait, et puis qui, en plus, donnent une échelle que je préfère laisser incertaine. Donc, c'est plutôt la raison. C'est pas du tout une hostilité à la personne humaine. Mais il m'est arrivé, enfin, de... Mais c'est vrai que c'est pas très fréquent. Mais c'est plutôt dans le dessin, alors que je réaliserai des portraits, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est quand même minoritaire.
De quel univers littéraire vous sentez-vous le plus proche ?
Alors, d'abord, toute cette inspiration imaginaire, je crois me souvenir que ça n'avait pas de source littéraire. C'était plutôt des histoires que je me racontais moi. Et puis, j'étais pas très lecteur. Enfin, un peu, mais pas tant que ça, et donc je le suis devenu davantage. Alors il m'est arrivé d'illustrer des livres, mais c'est une inspiration consciente. Même si ce sont des livres que j'avais choisis, on m'avait demandé d'illustrer des livres et on m'a dit vous choisissez le texte. Alors j'ai illustré évidemment des auteurs qui me plaisent. J'ai illustré Melville, une nouvelle de Melville qui s'appelle Benito Sereno, qui est une nouvelle très courte et une histoire terrible. Donc ça, j'ai aimé ce monde maritime, un peu inquiétant. Ensuite, j'ai illustré un texte qui s'appelle « Un tremblement de terre au Chili », qui d'ailleurs, géographiquement, se passe un peu où se passe la nouvelle de Melville, qui se passe au large du Chili, qui est aussi une histoire terrible de tremblement de terre, d'un amour contrarié qui se termine tragiquement. Et puis, décidément, c'est une coïncidence, alors ça concerne aussi l'Amérique latine, j'ai illustré un texte de Borges qui s'appelle « La bibliothèque de Babel », mais là, c'est un texte très court, très particulier dans ce sens que, en fait, c'est une blague qu'a écrit Borges, qui s'ennuyait comme bibliothécaire dans une bibliothèque de Buenos Aires, et qui a écrit cette espèce de fantasmagorie qui décrit, sans la décrire, une bibliothèque imaginaire, immense, qui contient tous les livres qui ont été écrits, qui seront écrits, les variantes. Et donc, c'était un prétexte à créer un univers un peu piranésien, justement, un peu fou et infini. J'aime bien l'idée d'infini aussi dans la représentation de l'espace qu'on retrouve dans les prisons de Piranès, qui est un grand délire graphique et architectural, alors qu'on retrouve dans Borges, et que j'ai un peu frôlé, disons, parce que j'avais fait une série sur des passages à Paris. Et il y a aussi dans les passages parisiens, qui sont une architecture très réelle et pas du tout imaginaire, mais il y a quand même une idée d'infini dans ce sens que ce sont des espaces très étranges, en creux comme ça, et dans lequel la réflexion a une grande importance, la réflexion dans les vitrines, la réflexion dans le sol, les verrières, tout ça crée aussi une espèce de
mise en abîme.
De mise en abîme, exactement. Donc il y a un lien de parenté entre tous ces thèmes.
Vous avez dessiné beaucoup de villes, hein, des villes souterraines, des villes de falaises. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a, une gravure qui est un petit peu un point de départ. Pour moi, non, mais pas, c'est pas forcément le point de départ de votre travail. C'est les remparts dans les années 1972, là.
Alors ça, c'est une image qui a une... Pour le coup, ça, c'est une inspiration identifiée.
Oui, allez-y.
C'est-à-dire que ça vient d'un film.
Oui.
C'est une image qui m'a été comme ça... qui est transcrite d'un film de Pasolini,
oui,
qui s'appelle Médée. Dans le film de Pasolini, il y a une scène qui se passe, ça se passe au pied des remparts d'Alep.
Écoutez, j'allais vous dire que ça me faisait penser à la citadelle d'Alep.
Alors, ça vient de la citadelle d'Alep. Mais ça vient du film de Pasolini,
alors,
parce que je ne suis jamais allé à Alep.
Je me suis demandé si vous étiez passé par la Syrie et par Alep.
Non, je ne connais
pas. Parce que c'est exactement
et
ça.
Et alors, ça vient du film. Ouais.
D'accord.
Donc,
bon,
voilà.
C'est parce que moi, j'ai
toujours le cas,
connu
mais...
un peu la Syrie, oui. C'est pour ça que j'ai pensé à ça.
Et c'est une architecture, oui, très particulière.
Ah oui, la citadelle est justement cette base.
Peut-être un tout petit peu à voir avec les architectures du Maroc, mais de très loin, hein, de très très loin. Oui.
Citadelle est imposante, alors là...
Il y a un aspect imposant, il y a un aspect... Il y a comme un peu un rêve minéral dans tout ça, donc on retrouve ça aussi.
Ah, on retrouve aussi quand même là votre...
Mais ça, c'est, cette image précise vient de ce film.
Vient du film, oui. D'accord. Alors moi, je n'ai pas vu le film, alors
c'est un très, très beau film avec Maria Callas.
Donc cette partie aussi, là, ces fondations un peu délirantes,
ça, vous savez plus. C'est quand même 35 ans
c'est
après
vieux,
la gravure.
Oui. N'empêche qu'après, vous avez effectivement travaillé sur les villes.
Alors oui.
Donc j'ai l'impression que c'était un petit peu votre point de départ, cette gravure des remparts.
Oui, mais c'est un peu des villes un peu troglodytes, un peu... Car j'ai beaucoup aimé les châteaux de sable étant enfant. D'ailleurs, je les aime toujours. Mais il y a aussi cet aspect sculpture de ville, disons. Ce ne sont pas vraiment des villes viables.
Non. Une ville dans les falaises avec...
Mais il n'y a pas de voiture non plus. et puis, il y a cette idée aussi de... comme des grandes maquettes dans lesquelles je me promènerais, c'est-à-dire en changeant les points de vue depuis le haut, depuis le bas, en m'éloignant, en changeant la lumière. C'est comme un peu... Ça a à voir un tout petit peu avec le cinéma, enfin, toute proportion gardée, hein, mais comme ça, ou le théâtre, disons.
Oui,
quelque chose, une théâtralisation, voilà.
David.
Voilà.
Et c'est déjà dans les remparts.
Ça vient un tout petit peu du décor de théâtre, oui.
Parce que côté dans les remparts, alors, un rempart qui est une ruine, d'accord. Il y a des grandes trouées dans le bâtiment, et ça, on retrouve des escaliers. On pense à Escher.
On a tout ça,
et puis il y a pas de place pour l'humain là. On ne sait pas par où passer. On ne sait pas où sont les passages.
C'est pas dirigé c'est contre pas... l'humain, je tiens à le dire.
Non, c'est pas négatif pour moi. Ça montre autre chose. C'est une métaphore du monde. Peut-être,
mais c'est vrai
j'en sais
que
rien.
Cette image précise mais... était vraiment, bon, avait une source.
Ouais. Identifié. Mais sur vos gravures que vous avez sur les villes, là, j'appelle ça une série, mais c'est pas une série, hein, parce que c'est un thème que vous avez.
Oui, c'est un thème lequel, récurrent.
Voilà,
mais ça
qui
n'a
est
pas
récurrent.
Été l'objet d'une publication.
Voilà, pas du tout. Effectivement, on a envie de rêver, d'aller voir, d'y être, hein, de se promener, mais c'est un monde un peu inquiétant, un peu mystérieux, pas
mais
inquiétant,
disons,
mais mystérieux.
Oui, mais alors ce sentiment, c'est pas un sentiment que je cherche à donner, disons. Ça vient un peu a posteriori. Parce que c'est plutôt des images que j'ai envie de préciser comme ça et qui... Et le sentiment d'inquiétude vient, est éprouvé par des tiers, mais pas tellement par moi, disons. Non, c'est plutôt une espèce de... Oui, c'est ça, de réalisme imaginaire. C'est-à-dire que j'ai une espèce d'idée d'une chose qui n'existe pas et j'essaie de la réaliser avec précision. Et cette précision peut induire un sentiment d'inquiétude.
Canal Académie.
Moi, j'aime beaucoup celle-là, la ville bleue. Ça, c'est un dessin, oui. Je trouve que c'est très, très, très beau. Vous pouvez nous parler de... Donc, c'est un dessin, on dit un dessin, pour moi, c'était pas un dessin, ça.
Ou une gouache, enfin,
une gouache.
C'est une œuvre
d'accord.
sur papier.
D'accord.
C'est à la plume, au pinceau, avec de la... sur un papier bleu, avec du blanc, enfin, en camailleux, on peut dire aussi, si vous voulez, oui, c'est... Enfin, ça, c'est pas de la gravure, alors. Mais bon, enfin, c'est très proche. Hein. Et puis, les choses, je vais un peu de l'un à l'autre, même si la gravure, disons, a un peu pris le dessus du point de vue du temps que j'y consacre. Le dessin a un tout petit peu reculé, un peu d'ailleurs à regret, parce qu'il y a quand même dans le dessin, c'est toujours pareil, on gagne d'un côté et on perd de l'autre. Mais il y a dans le dessin une spontanéité qui a parfois moins dans la gravure, où effectivement, on part d'un document. Et qu'on reporte sur cuivre, donc c'est pas tout à fait le même exercice. On se met peut-être moins en danger, en tout cas au début, qu'avec un dessin qui peut évidemment rater, qu'on peut déchirer tout de suite et puis passer à autre chose. Donc c'est pas pareil. Mais le dessin c'est vraiment la base. Oui. Et puis il faut faire du dessin. Voilà. Je suis très pour le dessin. c'est tout la balance entre la gravure et le dessin qui me préoccuperait parce que je trouve que le dessin est... c'est étrange comme les expositions de dessin ont beaucoup de succès et que les gens ne dessinent plus. Il y a pour moi une énigme. Alors est-ce que ça tient à ce que l'enseignement est devenu étranger au dessin finalement? On considère que ça ne sert plus à rien. C'est étrange d'ailleurs que ça soit le cas, puisque dans le domaine de la musique, personne n'irait remettre en cause, par exemple, la nécessité de savoir jouer d'un instrument. Il y a dans le dessin une économie de moyens qui est quand même formidable pour n'importe qui s'intéresse à la vision, enfin, que ce soit les architectes, les peintres, les sculpteurs. une facilité à mettre ça en, enfin dessiner avec un carnet de dessin n'importe où, c'est tellement facile, tellement simple, et puis en plus très agréable. Et puis en plus, ça donne un tel regard, ça oblige à regarder, à faire attention à ce qu'on regarde, etc., à passer du temps, à détailler un endroit, à l'organiser. Et ça, je trouve dommage qu'il y ait un recul de ça. D'ailleurs, ça aura des conséquences sur la qualité de la production artistique, malheureusement. Et donc, j'espère, vœu pieux, que ça ne soit pas trop négligé. Et aussi, en tant que graveur, ne pas trop négliger cet aspect qui est important, qui est comme faire des gammes. Comme d'ailleurs un pianiste ou un compositeur continue à faire du piano, ou même comme un virtuose du piano continue à prendre des leçons de piano aussi. C'est-à-dire, reste quand même quelqu'un qui doit apprendre. Je trouve ça important. Et le dessin permet justement... Enfin, c'est vrai que c'est difficile. Et puis, on peut rater des dessins. Et donc, la gravure est une chose, mais le dessin... La gravure ne doit pas s'enfermer trop dans un ghetto. Elle doit rester un peu attentive. Entre la peinture, le dessin, la gravure doit faire attention à ce qui se passe autour d'elle. La photographie, d'ailleurs. Je ne suis pas du tout hostile à la photographie. Depuis que ça existe, d'ailleurs, les artistes l'utilisent. Enfin, depuis le milieu du 19e, les peintres les plus importants utilisent la photographie. Sans parler de Degas qui a peut-être poussé plus loin que les autres. Donc tout ça, on doit rester l'œil ouvert un peu sur les choses qui sont à côté de vous et pas trop rester peut-être dans sa partie.
Vous avez beaucoup dessiné et gravé, je crois, enfin, Paris, des passages de Paris, mais ça devient aussi le Paris d'Éric Desmazières.
C'est-à-dire dans cette idée que l'inspiration est un peu quitter l'imaginaire pour aller vers le réalisme, ou vers une observation de la réalité, disons, comme je vis à Paris, mes yeux se sont ouverts sur ce que je voyais par ma fenêtre ou au cours de mes promenades. Enfin, c'est plutôt par ma fenêtre, en fait, parce que, justement, dans ce film, on montre des moments où je dessine à l'extérieur, etc. Ben, je peux vous dire qu'à part ce film, ça m'est assez rarement arrivé, quand même, parce que j'aime bien être protégé, disons, être seul dans un endroit et à travers une fenêtre, ce qui est un cadre d'ailleurs, commode, dessiner ce que je vois. Et donc c'est plutôt des vues de loin, c'est plutôt des vues où effectivement la présence humaine n'est pas tellement palpable. Et alors, bon, alors il y a la parenthèse des passages qui, comme je vous disais tout à l'heure, alors se relie à ce goût des choses infinies. Et puis bon, il s'est trouvé que dans les années 78-77, il y avait un marchand de gravures dans la galerie Vérododa, qui est une très belle galerie dans le premier arrondissement, qui s'appelait Bijan Alam, qui était un Iranien, bon, enfin maintenant il a fermé sa galerie, qui était plutôt une galerie consacrée d'ailleurs à l'art fantastique. Et donc j'ai beaucoup fréquenté cet endroit, qui était très beau, etc. Et j'ai sympathisé avec un antiquaire qui s'appelle Robert Capia, qui habitait à côté. Donc je suis devenu très familier de cet endroit. Et devenant familier, c'est toujours pareil, il y a eu un moment où j'ai eu envie de passer à l'acte. Alors j'ai commencé à faire un dessin depuis l'entresol, voyant la galerie, puis de réaliser des dessins à l'intérieur de chez Robert Capia. Et puis ensuite, je me suis dit, mais un peu justement en parallèle, enfin c'était peut-être un peu prétentieux d'ailleurs, il y a cette suite des prisons de Piranha. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire une suite qui ne serait pas les prisons, mais les passages. Donc j'ai un peu exploré les autres qui m'étaient moins familiers, que je connaissais pas. Donc j'ai découvert tous ces passages parisiens qui sont une architecture très particulière quand même et qui a un peu un charme désuet, qui sont pas toujours en bon état, qui sont étranges du point de vue même de la... Alors que c'est supposé être des endroits commerciaux, c'est en général assez désert. Donc il y a, enfin pas toujours, mais il y a une espèce de drôle d'atmosphère.
Il y a un décalage.
Et une très belle lumière, due à ces verrières, due à ces reflets. Enfin, on revient toujours à cette thématique. Et donc j'ai fait une série de gravures sur les passages. Et d'ailleurs, qui dans mon idée est une première série. J'ai un peu du matériel pour un jour en faire une deuxième. Mais bon. C'est très facile d'avoir des idées, la réalisation est toujours plus lente, surtout en gravure.
Quand considérez-vous une œuvre terminée, alors ?
Alors ça, c'est tout un art de conclure, oui. Alors il y a la fatigue, il y a le besoin d'argent, il y a les échéances. C'est parfois des raisons externes qui font que ça se termine. Puis à un moment, il y a une lassitude et puis on considère que...
Mais vous revenez parfois sur un travail
Pas trop, non.
Non, pas trop.
C'est arrivé, mais...
D'accord.
C'est
occasionnel, Julien. Ah, ben, d'accord.
Il m'est arrivé de reprendre un thème, par exemple la Tour de Babel, qui est un thème que j'aime bien. Mmh. J'avais fait Babel, des dessins, justement, adolescents.
Babel, Alexandrie, bibliothèque, j'imagine que ce sont des mots qui excitent votre imagination.
Mais c'est surtout cette espèce d'idée d'infini aussi qu'il y a dans cette
tour de Babel.
Construction circulaire, comme ça. Et donc, alors, j'avais fait des dessins adolescents autour de Babel que j'ai repris, comme ça, et ensuite, j'ai laissé tomber, puis j'ai repris encore des années après. Et je ne dis pas qu'un jour aussi, je ne reviendrai pas comme ça. C'est des choses qui reviennent. Car, comme vous le savez, les artistes sont toujours la même chose. Donc, on a l'impression que ça varie, mais c'est toujours pareil, mais à des époques différentes, avec un moyen d'expression qui peut évoluer.
Alors, vous avez fait une représentation de la BNF, là, de la salle Labrouste, une bibliothèque...
De la salle de lecture.
De la salle de lecture
de la Bibliothèque nationale de la rue
de Richelieu.
Ce qu'on appelle le site Richelieu.
Voilà, du site Richelieu. Et vous avez, dans cette...
Alors, c'était un peu à la suite des illustrations de la bibliothèque de Babel. C'est-à-dire que après avoir passé un certain nombre de mois à réaliser des gravures en regard du texte de Borges, je me suis dit quand même, ce serait peut-être plus simple de réaliser des bibliothèques d'après la réalité. Or, étant un peu familier à la Bibliothèque nationale, notamment Maxime Préau, qui est un ami qui est directeur de la réserve, m'avait dit, mais quand même, cette salle-là...
Cette salle, elle est extraordinaire.
Qui est extraordinaire. Alors bon, j'étais un peu timide, comment y aller. Puis j'ai eu les autorisations d'aller dessiner dans cette salle. Et donc, j'ai réalisé une gravure, mais assez longtemps après avoir fait le dessin, parce que la salle a fermé, me semble-t-il, je ne me souviens plus, peut-être en 98, enfin.
Ah, c'est déjà fermé quand vous...
Et donc, j'avais réalisé les dessins et j'ai fait la gravure en 2001.
D'accord.
Alors que la salle était fermée.
Elle s'était fermée depuis longtemps.
Depuis 3 ans. Mais j'ai vraiment dessiné, alors, sur place. Je suis monté, il y avait des espèces de coursives. Et alors, oui, c'est... Tout ce que j'aime, cette salle, c'est il y a aussi cette lumière extraordinaire qui vient à la fois de la paroi vitrée qui est côté nord, qui donne sur la cour de la Bibliothèque nationale. Il y a des dômes d'où vient de la lumière, il y a les lampes. Tout ça varié au cours de la journée. En plus, c'est une salle, justement, quand on y dessine longtemps, on s'aperçoit que Labrouste, l'architecte, a tout dessiné, alors que c'est très moderne pour l'époque, cette architecture métallique très audacieuse. La décoration est incroyablement chargée, surdessinée. Il y a des ornements autour des boulons. Il y a absolument pas de vide.
Vous avez dû.
Et en cela, ça me correspondait assez, car c'est peut-être un tort d'ailleurs, et j'ai horreur du vide dans les images. Donc il y avait aussi cet aspect. Et puis j'aimais aussi la complexité, car c'est presque carré, comme cubique. Donc il y a à la fois les lecteurs, qui sont quand même un décor très compliqué, avec les chaises qui ne sont pas toujours à la même place, les livres sur les tables, les lampes, etc., même s'il y a un rythme quand même. Il y a cette hauteur avec ces parois où il y a des livres, et puis il y a les coupoles qui sont au nombre de 9, enfin, et puis il y a une espèce de ce qu'on appelle l'hémicycle, qui est la partie qui donnait accès au magasin. Enfin, tout ça était d'une complexité...
Circulation, ouais.
Qui aurait permis d'ailleurs de faire... j'ai pas du tout épuisé le sujet en réalisant cette grande gravure et deux petites gravures annexes qui étaient comme des détails d'ailleurs de cette salle Labrouste.
Vous êtes aussi attaché à ce site Richelieu avec la réserve des estampes.
Oui, c'est un très bon endroit.
Alors, vous pouvez nous parler un petit peu de cet endroit où vous vous rendez
J'y vais pas si souvent, mais effectivement, c'est un endroit...
Parce que nous, on ne connaît pas...
La réserve de la Bibliothèque nationale, la réserve du cabinet des estampes, ce qui s'appelle maintenant du département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale, contient la crème de la collection de la Bibliothèque nationale, la collection d'estampes et de dessins, car la collection de dessins de la Bibliothèque nationale est peut-être plus importante, ou en tout cas rivalise avec le cabinet des dessins du Louvre par son importance. Et cette réserve est accessible aux artistes, il faut le dire, qui peuvent y aller le mercredi matin de 10h à midi. Et avoir accès dans des conditions de facilité
invraisemblables. Quelle a été votre plus belle émotion devant un dessin ou une gravure ?
Il y a vraiment là les choses les plus précieuses qu'on puisse imaginer et qui sont tout Durer, tout Rembrandt, tout Piranesi, tout Lucas de Leyde, tout Goya, tout une partie de Picasso, Kouzaï. En plus, il y a même des dessins de Durer, des dessins de Boulez. En plus, c'est très beau du point de vue de l'architecture, enfin, de l'agencement, disons. Donc c'est un endroit très agréable où il n'y a pas toujours beaucoup, enfin il y a assez peu de monde puisque c'est réservé aux chercheurs par ailleurs, et je ne pense pas que les artistes se précipitent malheureusement pour voir cet endroit où effectivement
vous,
les choses...
Vous pensez que c'est nécessaire de se nourrir
C'est comme ça que j'ai appris.
C'est comme ça que vous avez appris et que vous créez
Oui, en regardant et en se nourrissant de ce qui a été fait avant, mais bon, tout le monde ne fait pas ça et puis peut-être plus tout à fait dans l'air du temps.
Alors sur quoi travaillez-vous en ce moment? Si on peut vous poser la question.
Alors, c'est une bonne question. Je travaille sur plusieurs choses. Une très grande gravure qui me donne du mal, qui est toujours en rapport avec une thématique ancienne, qui est la vue du magasin qu'avait cet antiquaire Robert Capien dans la galerie Vérododa. J'avais réalisé, après avoir passé 10 ans à dire que je ferais un jour un dessin de ce magasin, un jour il m'a annoncé qu'à la fin du mois, le bail se terminait. Donc il a fallu faire vite. Et ce magasin est fermé depuis plusieurs années et j'en suis encore à finir la gravure. Enfin là, je pense que ça se termine. Mais c'est une grande gravure qui fait 90 cm par 70, c'est plutôt grand. C'était une chose. Et puis je travaille à un ouvrage qui sera relatif aux intérieurs parisiens. Donc,
de personnalité
Non, qui sera d'intérieurs qui me sont plutôt familiers comme ça, soit d'amis. Ça viendra en regard d'un texte de Patrick Moriès. Donc voilà, ça sera une espèce de réflexion sur le thème de l'intérieur, ses accumulations comme ça, assez éphémère finalement, puisque ça ne dure qu'en général que la vie des personnes, et qui ensuite se disperse. Et il se trouve d'ailleurs que le hasard fait que beaucoup des planches qui seront dans ce livre représentent déjà des endroits qui n'existent plus ou ont été vidés de leurs objets.
Une façon de graver dans le temps, ce qui...
Voilà, il y a un peu comme ça une façon d'essayer de retenir le temps. Enfin, c'est les choses auxquelles je travaille...
Tout le temps.
En ce moment, là. C'est...
Éric Demazière, vous avez été élu le 9 avril 2008. C'est peut-être un peu tôt pour vous poser la question, mais à quoi ressemblera votre épée? Quel est l'épée imaginaire d'Éric Demazière?
C'est beaucoup trop tôt pour poser la question, je peux vous dire.
Alors, oui, je m'en doute. Et, parce que là, c'est vraiment très, très tôt. L'élection a eu lieu il y a trois mois. Voilà, maintenant.
Même pas 3 mois. Là.
Même pas, oui.
Non, j'ai un peu de mal même, je vais vous dire, mais à imaginer. Pourtant, j'ai adoré dessiner des épées, étant enfant.
Alors, oui.
Peut-être c'est
là sera la plus difficile.
Je peux, très franchement, je ne peux pas encore vous répondre.
Merci beaucoup, Éric Demazière.
Je vous remercie.